Le Salon du patrimoine immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023 sur Radio Immo et Radio Patrimoine.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Salon du patrimoine immobilier, 6 et 7 avril, en plein cœur du Marais, au carreau du Temple. On est ravis d'accueillir Lannes Descollonges. Bonjour Lannes.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes le patron fondateur de Cassius, ça s'écrit K-A-C-I-U-S, conseiller en gestion de patrimoine. Racontez-nous ce que fait Cassius.
Alors Cassius, c'est une société familiale tout d'abord qu'on a créée en 2007 avec mon frère. Aujourd'hui, on propose des solutions d'investissement immobilier.
Oui.
Principalement en immobilier ancien restauré, à destination d'investisseurs privés qu'on commercialise par un réseau d'indépendants, principalement des conseillers en gestion de patrimoine. Et on va proposer de l'immobilier ancien restauré, puisqu'on va être nous aujourd'hui monteurs de ces projets et contractants général et commercialisateurs de l'ensemble de ces projets. On va intervenir sur des fiscalités telles que le monument historique,
oui.
La loi Malraux, le Pinel dans l'ancien, le Pinel plus dans l'ancien, puisqu'on y arrive. La loi de Normandie également et le déficit foncier d'une façon générale.
Très bien. Le principe effectivement de ces dispositifs, c'est qu'ils aident l'investisseur final, le client final à réduire son impôt. Il y a différents dispositifs. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Pinel qui semble avoir fait ces beaux jours. Et aujourd'hui, le Pinel Plus, il ne rencontre pas tout à fait un franc succès.
Alors, je pense qu'il ne rencontre pas un franc succès parce que les contraintes imposées par le Pinel Plus sont quand même très compliquées à atteindre dans l'immobilier ancien qu'on va restaurer. Pour autant, sur certains bâtiments, si on est en quartier prioritaire de la ville, on va répondre aux prérogatives de la loi Pinel Plus, ce qui est possible, puisque effectivement, c'est des projets qu'on peut proposer, mais pas que, puisque effectivement sur certains bâtiments on va réussir en fait à mixer aussi bien Pinel de l'ancien que Pinel plus, puisqu'on va pouvoir notamment privatiser peut-être des surfaces de jardin, avoir un bâtiment avec une double exposition qui va nous permettre effectivement de répondre notamment aux contraintes par exemple des T3 avec cette double exposition. C'est complexe, c'est vrai que c'est pas facile, puisqu'en fait le Pinel plus demande aussi un niveau de performance énergétique très poussé. On va être sur des DPE A ou B. Ce qui va vouloir dire qu'effectivement, on va devoir isoler par l'intérieur des bâtiments. Donc, ça veut dire que le bâtiment ne doit pas être protégé. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est effectivement possible. Mais effectivement, ça va être un petit peu plus complexe. Et c'est vrai que d'une façon générale, je pense fondamentalement que ces lois de défiscalisation qui ont pour but de rénover le patrimoine ancien aident quand même, en fait, la volonté des pouvoirs publics en fait, à atteindre ces objectifs qui sont imposés par la loi climat.
Bien sûr.
2021.
Mais c'est vrai qu'on a d'un côté des contraintes qui sont de plus en plus fortes, vous l'avez dit, traversant en tout cas pour le Pinel Plus, et puis à côté, effectivement, une incitation fiscale, puisqu'on a réduit, on était sur jusqu'à 22% de réduction d'impôts, on est à 18%, on est à 15%, c'est raboté, et en même temps, les contraintes sont plus fortes, ça veut dire que ça a perdu un petit peu de son intérêt par rapport à les quelques années. Vers quoi se tournent vos clients? Qu'est-ce qui vous demandent?
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a animé un atelier hier qui effectivement avait cette thématique-là, puisque je pense que c'est vraiment un point d'actualité qu'il faut vraiment maîtriser en tant que professionnel de l'immobilier. Et c'est vrai que d'une façon générale, les pouvoirs publics aujourd'hui tendent à pousser les investisseurs, en tout cas à acheter des appartements, des environnements qui vont être faibles consommateurs d'énergie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ont imposé le DPE par l'eau, mais aussi le DPE sur la copropriété. Ça veut dire qu'en fait, l'ensemble de ces opérations de rénovation, d'une façon générale, nous, en tant qu'opérateurs, on va tâcher en fait, de se fixer des objectifs pour atteindre ces objectifs de DPE, quel que soit le dispositif fiscal qu'on va utiliser. Et c'est vrai que d'un certain côté, j'allais dire qu'à partir du moment où on comprend bien la stratégie du gouvernement et la mise en route en fait, de leur plan de rénovation de l'ensemble urbain, je pense que ces lois de défiscalisation qu'on va utiliser et qui en plus apportent en fait un avantage fiscal pas neutre et qui permet justement d'avoir une diminution du coût de revient en fait de son investissement ont complètement du sens en fait aujourd'hui.
Oui, vous mettez en avant aussi peut-être moins le Pinel aujourd'hui que les dispositifs Malraux, monuments historiques. Est-ce qu'il y a encore des bonnes affaires à faire? Est-ce que ça reste des dispositifs intéressants?
Sur le dispositif monument historique, c'est vrai que la force du dispositif fait que, effectivement, d'un point de vue levier fiscal, on ne va pas faire mieux.
Oui.
On va intervenir sur des bâtiments anciens qui vont être inscrits ou classés, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement marqué une partie de l'histoire de France, de la région, de la ville sur laquelle le contribuable peut investir et va contribuer aussi à la rénovation du patrimoine. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend un parallèle assez pragmatique par rapport aux fortunes de France, ça reste quand même des gens qui ont travaillé sur le patrimoine, qui ont travaillé sur le savoir-faire français, sur la couture, sur des choses comme ça. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que l'entretien et la rénovation de ces bâtiments classés permettent aussi de contribuer à la valorisation du patrimoine français et que, effectivement, si c'est un dispositif fiscal qui existe depuis plus d'un siècle, ça a du sens. Et c'est vrai que là encore, je reviens sur les contraintes qu'on va s'imposer, nous, en tant qu'opérateurs, c'est effectivement d'atteindre des objectifs de DPE in fine. Alors, même si le monument historique est assez particulier dans ce sens-là, puisqu'il va être hors contrainte de DPE par rapport à la mise en location de l'appartement.
Mais en tout cas, on n'a pas les mêmes.
On n'a pas l'obligation de présenter un DPE à la mise en location d'un appartement dans un immeuble classé monument historique.
D'accord, ok, très bien. Donc même si c'est une passoire thermique, c'est pas grave.
Dans l'absolu, c'est pas grave. Alors,
mais est-ce que les contraintes dans la rénovation, quand on monte ces opérations, est-ce qu'il y a quand même des exigences pour être avec une certaine lettre, parce qu'on sait que ça va devenir
plus âgé. Dans la rénovation des bâtiments existants, en fait, on a une réglementation qui est propre à la rénovation des bâtiments existants. Maintenant, si on a un petit peu de bon sens, quand on est opérateur, on sait pertinemment qu'en 2034, donc c'est un peu demain, puisqu'en fait, à peu près toutes les obligations de mise en location, ça va être entre 6, 9 ou 12 ans.
Oui.
2034, c'est demain. C'est en fait, au lieu de mettre une opération de commercialisation, le temps de la rénover et le temps de la livrer et de la mettre en location, on arrive en 2034. Donc si aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre des DPE qui soient D ou moins, c'est aujourd'hui se mettre un peu une balle dans le pied, en fait.
Il faut anticiper de toute façon et commencer à travailler sur ces sujets.
C'est un point très important qu'on a commencé à mettre en œuvre, alors pas qu'en 2023, hein, parce qu'on a quand même anticipé un petit peu les évolutions. Mais c'est vrai que d'un point de vue opérateur, ça va être effectivement une nécessité en fait, de proposer des opérations de rénovation sur le monument historique et le Malraux, qui sont un peu moins contraignants d'un point de vue purement dispositif fiscal, d'un point de vue environnemental et performance énergétique.
Chez Cassu, justement, quels sont les programmes en ce moment qui sont proposés sur quelle région géographique, quel type de biens?
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de barrière à l'entrée sur les emplacements de nos opérations. On va tâcher d'apporter des solutions d'investissement qui soient dans un environnement qui sont voués à se valoriser, sur des environnements voilà, qui sont sur une dynamique urbanistique. Je pense notamment au Havre, où on va intervenir sur un manoir qui est classé depuis 1924, par exemple. Et du coup, on s'est positionné sur ce projet-là, puisqu'on est sur l'agglomération du Havre qui est très dynamique. Je pense aussi au château de Mercy, pour revenir sur les châteaux qui vont être classés monuments historiques. On va être sur Metz Métropole, on va être sur la ZAC dédiée à la recherche et la santé. Donc c'est des projets qui marchent très bien, parce qu'il y a une cohérence avec l'environnement. Il y a une décision et une volonté en fait, des aménageurs locaux. Je pense à Metz notamment, avec la SAREM là, qui nous a cédé le projet. Et effectivement, on s'inscrit en fait dans la rénovation d'un environnement, dans l'aménagement d'un environnement, et sont aussi faire contribuer les investisseurs à dynamiser un environnement urbain. Pour parler de l'actualité, puisque c'était aussi la question, bon, aujourd'hui, effectivement, j'ai cité ces deux opérations. On va sortir très prochainement un bâtiment emblématique de la ville de Pontoise, qui sera éligible en majorité à la loi Pinel+, parce que justement, on aura des appartements sur un immeuble traversant, avec la possibilité justement de faire des isolations thermiques assez poussées, mais avec la possibilité justement de privatiser des zones de jardin pour chacun des lots. On aura également l'ancien presbytère de la rue Saint-Victor à Nîmes, qui est un bâtiment classé, qu'on commercialisera et sur lequel on va faire 10 logements d'habitation. Et on aura aussi la maison 4 de Chiffre, qui est un bâtiment emblématique de la ville d'Avignon, qui est classé monument historique également, sur la rue des Teinturiers, qui est une rue aussi très fréquentée du centre ancien d'Avignon, qui est éligible aussi, loi Malraux, puisqu'on est en secteur sauvegardé. Donc ça va être sur l'actualité un peu des lancements. Maintenant, on a aujourd'hui en portefeuille un peu plus d'une dizaine de programmes en commercialisation, donc sur des fiscalités Pinel, Pinel de l'Ancien, Pinel Plus, Monument Historique et Loi Malraux. On va avoir du Tour, on va avoir du Uzès, qui vont être des villes qui plaisent bien aux investisseurs et qui ont une vraie profondeur de marché.
Voilà, pour en savoir plus, évidemment, le site hein, casus.fr ou bien vos partenaires, effectivement, les conseillers en gestion de patrimoine. On termine l'Onde des Scolonges avec... ce salon du patrimoine immobilier, première édition ici au Carreau du Temple, quel intérêt pour vous de participer à un tel salon?
Alors déjà parce qu'on est parisien, on est basé à Paris dans le premier.
Pas très loin d'ici.
Pas très loin d'ici, donc c'est vrai qu'on se devait d'être présent sur un salon parisien. Donc en plus dans un endroit qui est souvent utilisé pour faire des belles manifestations, donc on se devait d'être là, et puis c'est vrai que la possibilité de rencontrer nos partenaires, de rencontrer nos confrères aussi opérateurs, et puis voilà, de rencontrer aussi de nouvelles personnes comme vous, Fabrice,
ravi
d'intervenir sur votre émission de radio.
Et bien voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur Cassius, conseiller en gestion de patrimoine spécialisé dans l'investissement et la défiscalisation. Merci Yann Descolombes.
Merci.
Je rappelle que vous êtes le patron fondateur de Cassius. À très bientôt sur Radio Immo, Radio Patrimoine.
Au revoir.
Le Salon du patrimoine immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023 sur Radio Immo et Radio Patrimoine.